Biologie naturelle. Père Philippe, Saint-Joseph, le 15 novembre 84.
Nous allons donc essayer de voir successivement ces différents jugements de sagesse que nous portons sur l'homme, créature de Dieu. Alors la première chose que nous voyons, puis après on essaiera peut-être de regarder certains aspects. Je vous demande, dans la mesure où vous le pouvez, parce que j'hésite toujours, on pourrait lire avec vous ça. J'aimerais plutôt que vous puissiez le lire vous-même, ce qui me permettrait au cours d'être très libre. Mais je crois que c'est quand même bon, parce que c'est quelque chose qui... Alors si vous ne pouvez pas le lire, on peut le lire ensemble, hein, ça fait partie d'une réflexion qu'on peut faire, et à partir de là, parce que je crois que c'est quand même bon de connaître avec un peu de précision ce que représentent ces différents jugements de sagesse. Mais c'est peut-être pas commode pour vous d'avoir le texte. Hein ? Il y en a combien de textes ? Quoi ? Oh, c'est pas la peine de faire une photocopie pour ça. On fait des photocopies sur des textes incunables. Alors, je vais peut-être lire avec vous. Quoi ? Vous savez ce que c'est, hein ? Circuler le jour, c'est toujours le jour, on ne peut pas le lire. C'est toujours comme ça, circuler. Et comme il y a un cours toutes les semaines à peu près, c'est difficile comme on est nombreux. C'est peut-être mieux, alors, de vous lire, c'est moins drôle, mais c'est peut-être plus important au point de vue... C'est parce que je voudrais qu'il y ait, par rapport à ce différent jugement de sagesse, quand même quelque chose qui nous aide à bien saisir ce que ça représente. Et alors, dans un cours, on est très libre, on va un peu à droite et à gauche, exprès du reste, ça fait partie de la liberté, la chèvre de M. Seguin, n'est-ce pas ? On va à droite, à gauche, c'est très très bon de faire ça, mais il faut quelquefois avoir un aspect plus rigoureux. Alors, on va essayer, parce que ça, ce sont des thèses importantes. Alors, ce que je voudrais que vous compreniez, c'est que cette thèse classique des 24 thèses thomistes qui ne sont pas ici, de l'abbé Grenet, qui est mort du reste, donc maintenant dans le ciel il doit regarder les 24 thèses thomistes d'un nouveau regard, n'est-ce pas ? Les 24 thèses thomistes qu'il a repris, c'est la dernière moulure des 24 thèses thomistes. Alors, je crois qu'il est à Rimont, parce que je l'avais, donc il doit être à la bibliothèque de Rimont. Et c'est bon de l'avoir ici. Je ne dis pas pour travailler cela, mais pour voir ce que c'est. C'est toujours intéressant, se rendre compte, et de voir que c'est souvent imbuvable. Oui, parce que quand on se dit, voilà ce qu'est le thomisme, pour des gens ad extra, il faut quand même essayer de comprendre. Et c'est cette image-là qu'on donne, les 24 thèses thomistes, comme si au fond on pouvait résumer saint Thomas en 24 thèses. Alors une fois que vous savez les 24 thèses, vous savez tout saint Thomas au point de vue philosophique. Et là vous verrez que c'est pas du tout éducatif. Parce que on ne sait pas si on est en théologie, on ne sait pas si on est en philosophie, si on est dans la via inventionis ou si dans le point de vue du jugement. Alors, je crois que ce qui est éducatif pour nous, c'est toujours, un philosophe doit toujours, quand il affirme quelque chose, savoir exactement où il en est par rapport à l'expérience, par rapport à l'induction des principes, par rapport à ses niveaux différents. C'est ça la difficulté, hein. C'est qu'on a des niveaux différents. Vous voyez bien, je vous l'ai dit la dernière fois. On a le niveau de l'expérience, je le situe, le niveau d'expérience, c'est la base. On a deuxièmement le niveau de la saisie des principes. Principes propres. Et là, deux niveaux tout à fait différents. Troisième niveau, la découverte de la res première. que nous appelons Dieu. Quatrième niveau, le point de vue de la création. Cinquième niveau, jugement de sagesse. Alors, si on confond, vous voyez, tout ce que ça peut être, c'est là la très grosse difficulté de la philosophie, ça faut bien le reconnaître, c'est là ce qu'on appelle connaître le point de vue analogique. On est à des niveaux différents, le niveau de l'expérience, tout le monde peut le comprendre. Le niveau du principe propre, des principes propres, c'est encore les deux, c'est déjà pas mal, il y a l'induction entre les deux. Troisième niveau, c'est non plus l'induction, mais la démonstration postériori de la res première, de la res prima, qui est Dieu. De là, au Créateur, on passe par une relation. Ce n'est pas une induction, mais on essaie de comprendre comment la res première est le Créateur. Et une fois que nous avons saisi le Créateur, nous pouvons revenir dans une nouvelle relation, dans un jugement de sagesse, par rapport aux réalités. Alors, vous voyez, les réalités existantes. Alors, vous pouvez toujours situer votre moi, Pierre. C'est Pierre. Vous expérimentez Pierre. Et les deux extrêmes qui se touchent, c'est ça qui m'intéresse là-dedans. Vous avez l'expérience de Pierre, vous l'avez rencontré. Vous avez votre expérience de vous. Et vous revenez à cette même réalité dans une nouvelle lumière, qui est la lumière de la du Créateur, de Dieu Créateur. Et alors à ce moment-là, vous portez un nouveau jugement sur Pierre, sur vous-même. Vous voyez, c'est la même réalité, c'est pour ça qu'on dira qu'au point de vue de la connaissance matérielle, vous partez de la réalité et vous revenez à la réalité, vous êtes au niveau existentiel. Alors, c'est là où quelqu'un comme Heidegger distingue l'existentiel de l'existential. Intéressant. Je ne veux pas reprendre cette distinction pour nous, hein, faisons attention. Mais c'est intéressant de voir qu'il constate que dans l'aspect de la réalité existentielle, les étants ne nous donnent rien de l'être. Et l'existential est au niveau de l'être, et des modalités de l'être. Donc c'est tout à fait différent. Eh bien nous faisons cette distinction. Et c'est intéressant qu'on voit qu'on est obligé de faire des distinctions par rapport à la réalité immédiate que j'expérimente. Je m'expérimente, je sais, j'existe, je suis. Le jugement d'existence, je suis. De Descartes ou de moi, j'existe. Tu existes, cette réalité existe. Le toucher particulier qui est au niveau existentiel. Puis, progressivement, nous pénétrons toujours dans la même réalité. C'est l'homme. Nous pénétrons toujours dans la même réalité. Nous la dépassons par rapport à Dieu. Nous voyons la relation de Dieu et de l'homme. Et à partir de là, un nouveau jugement qui fait que je regarde l'homme comme une créature. Je me regarde comme une créature. Je ne peux pas regarder directement une réalité comme une créature. Je n'ai donc pas l'expérience de la créature. Au niveau philosophique, hein. Au niveau de la foi, oui, j'ai l'expérience de la créature, comme créature. Mais je n'ai pas l'expérience de la créature comme créature au niveau philosophique. C'est un jugement de sagesse. C'est pas du tout la même chose. Alors ça, il faut le comprendre. Il faut arriver à saisir, c'est pas du tout la même chose. Vous allez me dire, mais c'est la même réalité que je touche. Quand vous vous touchez, est-ce que vous dites, ah, je touche une créature? Est-ce que ça signifie quelque chose? Quand vous dites, je touche une créature? Ça signifie rien du tout philosophiquement. Vous ne touchez pas une créature. Vous touchez une réalité existante. Mais la créature, vous portez un jugement de sagesse sur cette réalité existante que vous dites créature. Vous la dénommez créature, mais vous n'avez pas l'expérience de la créature. Si vous aviez l'expérience de la créature, vous auriez l'expérience immédiate de Dieu. Voyez l'erreur de l'ontologisme. Là, vous la saisissez tout de suite. L'erreur de l'ontologie, c'est de confondre l'expérience immédiate et la concluante sagesse. C'est, l'erreur, c'est, et c'est très important, je vous l'ai dit, je voudrais que vous arriviez à bien comprendre ce que c'est que l'ontologisme. Le séminaire sur Saint-Anselme, le séminaire sur, va nous aider à comprendre comment on est arrivé à l'ontologisme. Étant donné que c'est, je crois que c'est ce qui a préparé l'athéisme. Du réalisme à l'athéisme, il y a l'ontologisme, il y a un métaxu absolument indispensable, si je veux comprendre ce que c'est que l'athéisme contemporain. Et donc pour nous c'est très important, vous comprenez. Parce qu'il faut arriver à comprendre un peu les erreurs, c'est pas simple. Les rejeter sans les comprendre, ça ne signifie rien du tout. Il faut les analyser pour être purifié de ces erreurs, parce qu'on est tous un peu plongés dedans. Vous voyez, le blondélisme d'heureuse mémoire, n'est-ce pas? Eh bien, de fait, assumer dans le point de vue thomiste l'ontologisme. Si vous êtes attentif à étudier ce que c'est le Blondel. Je sais très bien que c'est très difficile, on n'a pas à critiquer directement Blondel, mais c'est, on a à le comprendre, on a à saisir, et comme toute une génération ecclésiastique a été formée par Blondel, ça explique beaucoup de choses. Ça explique des quantités de choses, ça explique comment un réalisme philosophique a disparu. Et c'était l'ontologisme. En Italie, c'est Rossmini. Milan, Rossmini est encore vénéré à Milan. Et Rossmini implique de l'ontologisme. C'est très très curieux, c'est une maladie, un virus, vous voyez, qu'il faut essayer de saisir, et qu'il faut bien saisir. Pour ça, il faut l'analyser. Alors, je crois qu'on le saisit bien quand on comprend la difficulté que nous avons en milieu chrétien. Nous sommes en milieu chrétien. Et Blondel est né en milieu chrétien. Et Rossmini est né en milieu chrétien. En milieu chrétien, la difficulté qu'on a de comprendre le réalisme philosophique et le point de vue du jugement de sagesse et le point de vue de la foi. Alors, d'autre part, le jugement de sagesse, c'est capital pour comprendre comment la philosophie peut être au service de la théologie. C'est par la sagesse. Et donc c'est très important de comprendre ça. Et c'est très, très, très compréhensible que, en milieu chrétien, l'ontologisme est né en terre chrétienne. C'est en terre chrétienne, c'est Malebranche, le grand ontologisme. Bon, alors, il s'est né en terre chrétienne où on a confondu le jugement d'existence et la foi. Alors à partir de ce moment-là, tout est joué. Mais vous le voyez philosophiquement, les deux extrêmes. Il n'y a qu'à réfléchir sur ça. Il faut que ceci soit complètement évident. C'est un aspect critique, hein, ça. Il faut que ce soit absolument évident. Essayez d'être intelligent pour comprendre ces 5 degrés. Il faut que ce soit absolument évident pour vous, en comprenant qu'il y a là des niveaux d'intelligibilité totalement différents. Allô, hein. Autre. Et cependant, c'est toujours la même réalité, c'est ça qui est extraordinaire. C'est la même réalité que je cherche. Ceci est. Et tout est commandé par ceci est, ce jugement d'existence. Vous avez les niveaux différents. C'est très beau du reste de voir ça. Ça montre bien comment l'intelligence, hein, c'est un vilebrequin extraordinaire. Hein. Vous creusez. Vous aboutissez à ça, et alors, dernier moment, un jugement d'existence, vous dénommez l'homme, moi-même, je suis une créature. Quand vous dites je suis une créature, qu'est-ce que ça veut dire, hein? Alors, c'est ça qu'on va regarder. Je suis une créature, c'est-à-dire je suis un être totalement dépendant d'un autre être, que je ne vois pas, mais qui est plus présent à moi-même que je n'ai de présent à moi-même. Je suis une créature. Alors, qu'est-ce que ça veut dire quand je dis « je suis une créature » Le « je suis une créature », l'existant participé. Je participe mon essai. Mon essai est un essai participé. C'est-à-dire un essai qui vient d'une source première. Cette source première, elle, elle est. C'est là qu'on rejoint le « je suis » de Yahvé. Faites attention, je mets entre parenthèses ici, hein. Mais je le rejoins métaphysiquement, philosophiquement, je le rejoins dans la philosophie première, et je le rejoins dans le jugement de sagesse. Dieu seul peut dire « je suis » d'une façon absolue. Nous recevons notre existence. Ah, c'est très curieux, nous recevons notre existence. Nous avons un laisser participer. Or, vous n'avez pas l'expérience de laisser participer. Tout est là, entre la différence entre le néoplatonisme et l'aristotélisme. Et le néoplatonisme est le lit de l'ontologisme. Et l'ontologisme est le lit de l'athéisme. Là, vous voyez comment on voit que ça se rebondit. Alors, laisser participer, c'est justement par là que je me dénomme créature. Je n'ai qu'une existence participée. C'est-à-dire, je n'ai qu'une existence qui est reçue. Ce qui est participé est reçu. Il est reçu en quoi, vous comprenez bien ? C'est de la difficulté, il est reçu en quoi ? Si je suis une créature, je suis totalement dépendant de l'être premier. Donc il n'y a rien de moi. Tout est donné, tout est reçu. Je suis entièrement dépendant. Laissez participer, laissez reçu. Il est reçu en quoi ? Il n'est pas reçu dans une réalité. C'est-à-dire dans un sujet. Alors ce sujet, lui, ne serait pas créé. Vous voyez la difficulté. Et vous voyez là l'analyse. Ah, il est reçu dans une essence. L'essence reçoit l'existence. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, hein? Et c'est ça qu'il faut essayer de se dire. Alors, l'imagination, là-dessus, qu'on regarde, vous comprenez, l'essence reçoit l'existence. Mais oui, c'est très bien, il y a l'essence d'un côté. Alors, on remplit le vase de l'existence. Et le vase est rempli de l'existence. Et l'essence est uniquement une capacité à recevoir. Une capacité. Alors, nous avons une essence, nous. Oui. Et notre essence est une essence d'homme, puis il y a la vache qui a son essence, puis elle reçoit aussi l'existence aussi, n'est-ce pas ? Alors vous voyez, vous remplissez les vases différents. Je dis exprès ça, sérieusement, je ne blague pas en disant ça, j'ai entendu un ponte, je ne dis pas d'où, mais disant ça, sérieusement, en disant l'analogie de l'être, c'est le sac à pommes de terre. Alors, il y a toutes les pommes de terre dedans, n'est-ce pas ? Et le sac à pommes de terre qui les contient tous. Alors l'être, c'est le sac à pommes de terre qui remplit toutes les pommes de terre. Voyez, tous les... Alors, je comprends qu'un Heidegger, devant des trucs comme ça, bondisse en disant cette vieille métaphysique qui ne signifie rien du tout. Parce que c'est vrai, c'est inintelligible de dire ça, si je veux comprendre. Alors ici, vous voyez le problème, c'est ça que je veux, que vous situiez le problème, et comprendre que ce n'est pas si commode que ça, que le problème est difficile. J'ai une nouvelle existence, un nouveau jugement sur moi-même. Hein, vous n'avez qu'à vous regarder. Là, vous avez le droit. Parce que vous vous regardez dans la lumière du Créateur. Et se regarder dans la lumière du Créateur, métaphysiquement, philosophiquement, c'est merveilleux. Parce que c'est à la racine même de notre adoration. Et c'est à l'intérieur même de notre adoration. Puisque je ne peux avoir ce jugement de sagesse qu'après le point de vue de la création, et donc la réponse que j'ai, l'adoration. À l'intérieur de l'adoration, je peux me situer par rapport au Créateur. Mon être est totalement dépendant de lui. Puisque la création, c'est à partir de rien. Le Créateur réalise tout à partir de rien. Ex nihilo. À partir de rien. Donc, j'ai un essai participé. Ça, tout le monde le dira, j'ai un essai participé. Mon exister de créature est un essai participé. L'essai participé, c'est un essai reçu. Tout le monde est d'accord. Il est reçu en quoi ? En quoi mon essai est reçu? Cherchez bien. Cherchez bien à voir qu'est-ce qui reçoit votre... Parce que votre existence, c'est vous. C'est tout vous. L'existence vous prend totalement. Vous êtes entièrement pris par cet essai participé. C'est pas quelque chose de divin. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? L'essai participé, il est reçu. Et vous devez le dire. Hein? Si vous comprenez que Dieu est l'essai au sens parfait, il est l'essai subsistant. Ça, je crois qu'on peut le dire philosophiquement et théologiquement. Il est l'essai subsistant. L'ipsum esse subsistant. C'est une des grandes affirmations de saint Thomas pour montrer la simplicité d'être Dieu. C'est absolument ça, parce que son existence, il subsiste dans son existence. Il est dans son existence, il est. Je ne peux pas dire mieux que lorsque je parle de l'être premier, quand je parle du Créateur, de dire « il est ». Bon, si lui, il est, toutes les autres réalités, en dehors de lui qui existent, sont un essai participé. Ça ne peut pas être autrement, puisqu'il ne peut pas y avoir deux êtres qui sont absolument ça. Métaphysiquement, ce serait contradictoire. L'être subsistant ne peut être qu'unique, il est absolument simple. Simple dans son existence. Donc, tous les autres sont un essai participé. Si tous les autres sont un essai participé, moi-même, hein, un essai participé, l'essai participé, il est reçu. Il est reçu en quoi? Ah, il est reçu... dans un être en puissance. Alors, je commence à percer. Cet être en puissance, je ne peux le préciser qu'à partir de l'être en acte, comme toujours. Un être en puissance ne se dévoile qu'à partir de l'être en acte. Je ne saisis un être en puissance qu'à partir de l'acte. Vous n'avez qu'à réfléchir tout simplement sur votre opération intellectuelle. Ce n'est que dans la mesure où vous connaissez, que vous pensez, que vous pouvez saisir votre capacité de penser. Ce n'est que dans la mesure où vous aimez en acte, que vous pouvez saisir la capacité qu'il y a en vous d'aimer. Donc, les deux capacités, intelligence et volonté, l'esprit, je ne le saisis qu'à partir de mes diverses opérations. C'est en pensant, c'est en aimant que je découvre ce que c'est que la capacité de penser et d'aimer. C'est toujours comme ça. Ce n'est qu'en voyant un architecte opérer que vous dites « c'est un architecte ». Il a la capacité de faire ça. C'est à partir de l'acte que je découvre la puissance. Ça, c'est très très important de le comprendre. Hein. Donc, c'est à partir de l'essai participer qui est acte. C'est l'être en acte, l'essai participer. C'est l'être en acte qui n'est pas totalement être en acte, puisqu'il est participé. Donc, il est limité. Mais il est limité pourquoi? Parce qu'il est reçu. Donc, parce qu'il n'est plus simple, il est donc composé. Si on n'est plus simple, on est composé. S'il ne peut y avoir qu'un seul être simple, tous les autres êtres sont composés. Alors, quelle est leur composition fondamentale? Leur composition fondamentale, je la comprends à partir de l'essai participer. L'essai est participé en moi, il est reçu. Il est reçu en quoi? Il est reçu dans un être en puissance. Qu'est-ce que c'est que l'être en puissance? C'est l'essence. Donc l'essence se dévoile à partir de l'être en acte, c'est-à-dire à partir de l'essai participer. Ah, ça c'est intelligible. Ça vous pouvez le saisir. Vous pouvez comprendre que ce sujet dans l'ordre de l'être... il n'existe pas avant laisser participer. Mais ça me fait toujours penser aux petits gosses quand on a tous fait ça quand on était gosses, un beau paysage, n'est-ce pas ? On le regarde comme ça, et puis quand on le regarde en se penchant, et on voit tout à l'envers, tu vois ? On a ces paysages-là en avion, quand l'avion fait des... Ça peut vous donner mal au cœur, mais en fond, c'est ça. Et ici, c'est la même chose. Vous comprenez ? Vous avez une connaissance habituelle. Et puis, subitement, vous avez une nouvelle connaissance qui est à la manière de Dieu. Le monde de sagesse, c'est de connaître à la manière de Dieu. Comment Dieu vous regarde-t-il ? Il vous regarde dans la perspective de laisser participer. Et dans la perspective de laisser participer, c'est ça qui est en acte en vous. C'est que vous existez, mais vous existez en dépendance. Et vous existez dans une dépendance radicale, totale, actuelle. Votre essai est un essai participé, un essai donné. Donc il est reçu. Il est reçu non pas dans un être antérieur, puisque tout votre être est participé. Il est reçu donc dans ce que l'intelligence peut saisir. Seule l'intelligence peut saisir cette capacité d'exister. L'essence, c'est la capacité d'exister. Vous comprenez donc, si vous avez saisi ça, que l'essence ne peut pas se comprendre en dehors de laisser participer. C'est à partir de laisser participer que l'essence apparaît. Et que vous voyez cette capacité à être. Alors, quelle est votre essence ? C'est intéressant de se poser la question. Quelle est votre essence ? Point de vue métaphysique, dans le jugement de sagesse. Qu'est-ce que c'est que votre essence ? C'est votre capacité d'exister. Et votre capacité d'exister, c'est quoi ? Ah, c'est l'être à l'homme. Quand Aristote dit le to Anthropo einein, l'être à l'homme, le to anthropo einein, c'est ça ma capacité d'exister. J'existe comme un homme existe. C'est vrai, ça c'est très vrai. J'existe comme un homme existe. Je n'existe pas à la manière d'un ange. Je n'existe pas à la manière d'une vache. Non. J'existe à la manière d'un homme. Exister à la manière d'un homme, qu'est-ce que ça veut dire d'exister à la manière d'un homme ? Mais oui, c'est d'exister avec ses limites particulières qui existent dans l'homme. Il y a une essence d'homme. Une essence d'homme, c'était une capacité à exister qui existe en fonction de mon existence. Mais je ne me donne pas mon existence. Non. Je ne me donne pas mon existence. Je la reçois. Vous voyez, là, je suis vraiment dans une lumière de jugement de sagesse. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est de voir que... C'est là, on va tout de suite comprendre l'ontologisme, comment il va l'être. Vous comprenez cette distinction d'essence et d'existence ? Cette distinction d'existence et d'essence. Vous voyez comme c'est subtil. Hein ? Parce que vous ne saisissez pas votre essence directement. Dans la lumière du Créateur, vous saisissez votre essai participé. Ça oui, vous pouvez. Intellectuellement, comme une conclusion, comme un jugement de sagesse. Je ne peux exister que dans un essai participé. Ça, vous pouvez en avoir l'évidence. D'une conclusion. Et cette évidence, vous l'avez dans la mesure même où vous avez posé que l'être premier, c'est l'ipsum esse subsistens. C'est-à-dire, c'est celui qui subsiste dans son existence. Ça, je peux en avoir aussi l'évidence. J'ai découvert qu'il existe un être premier. Cet être premier ne peut exister que dans une simplicité absolue. Nous pouvons tous avoir l'évidence de ça. C'est une évidence philosophique. Une évidence de sagesse métaphysique. Une fois que j'ai cette évidence... Je me regarde dans la lumière de cette évidence. Et je me dis, moi, je ne peux exister que d'une manière dépendante. Je suis second dans l'ordre de l'existence. Je ne suis pas premier. Je suis second dans l'ordre de l'existence. Ça, c'est bien évident. Parce qu'à côté de moi, il y a aussi quelqu'un qui est second dans l'ordre de l'existence. Alors, est-ce que celui qui est à côté de moi est avant moi dans l'ordre de l'existence? Non, il est second comme moi. Est-ce que la petite fourmi, dans l'ordre de l'existence, elle est après moi? Non, elle est comme moi. C'est comme ça, c'est très radical. Hein, vous voyez, je ne vois pas du tout l'image de Dieu encore. Je vois tout simplement le point de vue de l'existence. J'existe de cette manière particulière, c'est que je suis second dans l'ordre de l'existence. Je ne suis pas premier. Mon existence est totalement dépendante d'un être premier. Dépendante de sa volonté, dépendante de sa liberté, mais dépendante de lui. Donc, c'est ça, laisser participer. Donc, laisser participer, c'est mon existence. Et cette existence de mon laisser participer est donc dans cet état relatif de dépendance. Ça, je peux en avoir l'évidence. Vous voyez toujours comment j'en ai l'évidence. Hein. C'est une évidence qui dégringole. Hein. Ce n'est pas une évidence immédiate. Je n'ai pas d'expérience directe de laisser participer. Ça, il faut arriver à vous purifier de ça. Parce que nous croyons tous que nous en avons l'expérience. Tout le néoplatonisme est persuadé qu'on a une expérience de votre essai participé. Vous ne l'avez pas. Vous avez une expérience de votre essai limité, mais pas participé. Ce n'est pas la même chose. Vous avez l'expérience de vos limites. On sent oui, heureusement. La grenouille qui veut devenir aussi grosse que le bœuf, de temps en temps, elle se dégonfle, elle a l'expérience de ses limites. On a l'expérience, mais vous n'avez pas l'expérience de laisser participer. Si vous aviez l'expérience de laisser participer, vous avez l'expérience de Dieu. De lui soumettre sous distance. Vous verriez dans la lumière de Dieu. Vous voyez, moi, je me vois dans la lumière de Dieu, puisque j'ai l'expérience de m'en laisser participer. Donc, confusion entre la limite et la participation. La participation est cause de la limite. Et la limite est l'effet de la participation. Enfin, je vais distinguer ça. Intellectuellement, nous pouvons le faire. Il faut le faire. Hein. Et tant que vous ne le faites pas, il y a des vieux petits restes d'ontologisme qui sont en vous. Hein. Et les vieux petits restes d'ontologisme qui sont en vous sont des manières d'être qui irriteront ceux qui n'ont pas en face de vous la même évidence. Et ils ont raison de ne pas avoir la même évidence. Ça ne veut pas dire du tout que j'ai l'évidence de, je suis un essai participé. J'ai l'évidence, je suis une créature, mais faites attention à votre vie, mais comprenez bien, vous avez l'évidence. Et vous irritez les gens quand vous dites ça. Vous les mettez en boule parce qu'ils n'ont pas cette évidence. Et ils ont raison de ne pas l'avoir. Vous l'avez en tant que croyant. Mais ne confondez pas votre intelligence et votre foi. En tant que croyant, oui, je peux dire que j'ai l'expérience que je suis un être créé. Je le dis dans le credo, une expérience de foi, une adhésion de foi. Il y a des fois, c'est sec comme tout, hein, parce que c'est sec la créature, hein. C'est très très sec. Mais l'expérience peut se faire, on peut avoir cette expérience que le Saint-Esprit nous donne, qu'on est comme la petite éponge plongée dans l'océan. Alors ça, c'est l'expérience de laisser participer de tous les mystiques, de tous les mystiques, ils ont cette expérience-là. Dans la foi, je peux l'avoir. Mais pas philosophiquement. Donc je n'ai pas l'expérience de laisser participer, mais je pose laisser participer comme une conclusion. Et cette conclusion est évidente. Une fois que j'ai posé cette conclusion évidente, je peux découvrir, je dévoile ce que c'est que l'essence. Vous voyez comme l'essence est cachée. Alors, ce qui est terrible là-dedans, vous voyez, c'est que le mot « essence », le mot essence a pris une signification extrêmement variée. Saint Thomas lui-même, hein, dans Saint Thomas lui-même, mais Saint Thomas est théologien. Alors, comme théologien, il a le droit de le faire. Le théologien a le droit de faire des je ne dis pas des confusions, parce que ce n'est pas des confusions pour le théologien, mais il a le droit de brasser certaines choses que nous, philosophiquement, nous devons distinguer. Saint Thomas dira dans le DNT, DNT, il dira le point de vue, la nature, l'essence, la substance, c'est la même chose. Alors, les bons thomistes répéteront. La nature, l'essence, la substance, c'est la même chose. Vous voyez que ce n'est pas la même chose du tout. La substance est saisie comme un principe. Est-ce que l'essence est saisie comme un principe? Non, comme un réceptacle. C'est saisi comme un réceptacle. Le réceptacle de l'être, c'est l'essence. C'est la capacité d'exister. C'est ça, le réceptacle. C'est la capacité d'exister. Donc, c'est saisi du côté de la puissance. Tandis qu'un principe, il est saisi comme en acte. Un acte de principe, donc, ayant son intelligibilité. La substance a son intelligibilité. La nature, c'est un principe dans l'ordre du devenir. Et puis, troisième confusion, je vous montre ça pour que vous arriviez à distinguer progressivement ces choses qui, encore une fois, en bon théologien, saint Thomas a parfaitement le droit de le dire. Mais il est au niveau théologique, il n'est pas au niveau philosophique. Saint Thomas ne fait pas de la philosophie. Il fait de la théologie, c'était ce que Dieu lui demandait de faire. Et au Moyen-Âge, on comprend très bien qu'il faisait uniquement de la théologie parce qu'il vivait en chrétienté. Alors, en vivant en chrétienté, il parlait des croyants. Vatican II nous demande l'ouverture au monde. Donc, il nous demande d'être philosophe. Et c'est au moment où on en fait le moins. Vous voyez, c'est très curieux. La réponse à Vatican II, c'est de ne plus faire de philosophie. Alors que Vatican II demande la philosophie, puisqu'il demande l'ouverture au monde. L'ouverture au monde, c'est la compréhension de l'homme. Et la compréhension de l'homme doit se faire au niveau philosophique. En premier lieu, et d'une façon ultime dans la foi. Mais d'abord au point de vue philosophique, d'avoir cette compréhension de l'homme. Alors, au plan philosophique, vous devez donc distinguer la définition. Quand on dit « la définition définit l'essence », on dit ça couramment. La définition définit l'essence. Qu'est-ce que la définition définit? Non, la définition, c'est l'union du genre et de la différence spécifique. Le genre et la différence spécifique. Animal raisonnable. Est-ce que animal raisonnable, c'est l'essence? Au sens rigoureux, vous devez dire que animal raisonnable exprime le toti en einein. Encore un animal qu'on va déloger. Hein. C'est bien de le voir. Maintenant, on le reverra en métaphysique. Alors. Et ici, tout le monde y est. Alors, il faut savoir ça. Il faut savoir ce que c'est que le toti en einein. Vous allez comprendre. Le toti en einein. C'est un des mots qu'Aristote a inventé. Il n'en a pas inventé beaucoup, il en a inventé deux. Le entelekeia, mais laissons ça de côté. Et le toti en einein. Alors il faut mettre comme ça aujourd'hui. Ça fait mieux. Ça fait mieux, c'est toti en einein, parce que c'est un mot composé, toti en einein. Alors il faut comprendre que le toti en einein englobe le ti en einein. Alors mettez l'analogie entre le to anthropo einein et le to ti en einein. Le einein à l'homme, le einein au tien. Oh, ça c'est extraordinaire, le einein au tien. Qu'est-ce que c'est que le tien? C'est l'interrogation. Tien est un sous-tiesti. C'est pas la même chose, puisque d'un côté c'est l'imparfait, l'autre côté c'est le présent. Mais l'imparfait représente justement quelque chose qui demeure. Hein. Tandis que le tien, c'est uniquement ça. Donc, qu'est-ce qui, l'être, a ce qui demeure? Je vous ai dit l'autre jour que pour Platon, l'ousia, c'est la déesse qui demeure. Alors, pour Aristote, ce n'est pas tout à fait la même chose. Qu'est-ce qui demeure dans un être? C'est ce qu'il est essentiellement. je ne dis pas son essence, mais c'est ce que dit essentiellement. C'est l'homme. Vous changez, mais vous restez toujours un homme. C'est l'homme qui demeure. Alors, le totieneinan, c'est donc chercher l'être à ce qui demeure, à ce qui est le plus profond et le plus radical. Alors, le totieneinan, c'est traduit en latin littéralement. Quoi ? Qui ? Era ? Esse ? Quod quid erat esse. Ça, c'est la traduction directe, littérale. Comme c'est un peu trop long, vous savez, comme les noms trop longs, quand on s'appelle, je ne sais pas, mais tous les noms qui se déclinent. Bon, alors, à ce moment-là, en vie commune, on les raccourcit. On les raccourcit. Alors, on les raccourcit dans une manière très simple. Alors, on a raccourci le quod quid erat esse. Et on a fait le petit nom de famille. La quidité, quiditas, c'est le ramassis de quoi? Ces quatre moments, vous dites quiditas. Et puis comme on ne se fatigue pas, on a traduit quidité. Et le mot quidité, il a fait fortune. Puisque même Sartre l'emploie. C'est extraordinaire, quidité. Alors, vous employez quidité, quidité, un nom barbare, d'où ça vient? Mais ça vient de quoi? Du tout Eneinai. Vous voyez, c'est loin, loin, loin de l'origine. Qu'est-ce que ça veut dire, la quidité? La quidité, c'est tout simplement l'intelligibilité essentielle d'une réalité. C'est ce que vous cherchez quand vous voulez définir quelqu'un. Quand vous voulez définir une réalité, vous cherchez son intelligibilité la plus profonde. C'est son intelligibilité la plus profonde que vous cherchez. Qu'est-ce que c'est cette réalité? Qu'est-ce qu'elle est? Pierre, qu'est-ce qu'il est? Un homme. Qu'est-ce que ça veut dire un homme? Animal raisonnable. Vous êtes au niveau là de la définition. Vous êtes donc au niveau de l'intelligibilité première que vous pouvez saisir. L'intelligence première pour saisir quelque chose, vous l'encerclez. Animal, c'est très très général. L'œcuménisme de l'animal, c'est très très général. Il y a beaucoup, beaucoup d'animaux. L'arche de Noé, ça renferme tous les animaux, chacun selon son espèce. Alors là, la quidité, le genre et la différence spécifique qui vient déterminer. Et qui vient déterminer ce qu'est plus général et qui se prend de façon tout à fait. Alors, on dira, sans faire attention, que la quidité, c'est l'essence. Saint Thomas le dit. Donc vous êtes un bon thomiste en le répétant. Non, vous n'êtes pas un bon thomiste en le répétant. Parce que Saint Thomas le dit au niveau proprement philosophique, au niveau proprement théologique. Au niveau philosophique, faisons attention. Qu'est-ce qu'on devrait dire? On devrait dire, si on était tout à fait précis, la définition exprime l'intelligibilité essentielle d'une réalité. C'est au niveau de l'intelligibilité. Ce n'est pas au niveau de la réalité. Par genre, évidemment spécifique. Donc on peut être au niveau d'une définition logique. Et la définition logique ne vous dit pas ce qu'est la réalité. Elle le dit fondamentalement, mais pas directement. Elle le dit par genre et différence spécifique. Elle le dit donc selon des modalités particulières, qui sont notre conditionnement. Nous saisissons de cette manière-là. Nous saisissons par genre et différence spécifique. Alors, disons que la quidité, c'est au niveau de l'intelligibilité. Il y a une nouvelle intelligibilité au niveau de la substance, au niveau de la nature. Vous pouvez parler de la nature de l'homme. Vous pouvez parler de la substance de l'homme. Quelle est la nature de l'homme? La nature de l'homme, c'est d'avoir âme et corps. Quelle est la substance de l'homme? C'est d'être un être qui a son autonomie profonde, radicale. Quelle est l'essence de l'homme? dans un jugement de sagesse. L'essence apparaît comme la capacité d'être. Donc voyez, essayons de redécouvrir le premier moment de ce que représente l'essence. Alors, je sais très bien qu'on pourra me dire, est-ce que l'essence n'apparaît pas avant ? Alors là, pour ceux qui connaissent bien la philosophie première, ils sauront que d'une certaine manière, je dis d'une certaine manière, on peut faire apparaître l'essence au moment où on distingue l'être en acte et en puissance, au niveau de la substance. Mais ce n'est pas tout à fait propre. Je crois que c'est vraiment ici où on doit voir le dévoilement des sens comme une capacité d'exister. Alors, une capacité d'exister, vous voyez, ça ne dit pas grand-chose hein, sur ce que vous êtes. Mais vous, je peux préciser, l'homme, c'est telle capacité d'exister. La vache, c'est telle autre capacité d'exister. Mais l'essence, c'est une capacité d'exister, c'est-à-dire ce qui reçoit l'essai. Mais ce n'est pas du tout comme un sujet existant avant. On reçoit l'essai dans une capacité radicale au niveau de l'être et qui n'existe pas avant que l'essai soit là. Je la découvre à partir de l'essai et je sais très bien que l'essence n'existe pas antérieurement. Il ne faut surtout pas chosifier l'essence. Il faut saisir l'essence à partir même de l'essai.
Entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs,